l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Ce jeudi 6 mars, à la salle des Synodes de Narbonne, conférence du Cercle Napoléon de Montpellier sur le thème « Napoléon et Venise ». Le conférencier sera David Chanterane, historien qui donne notamment des cours à l'Université de Paris-Sorbonne, mais qui consacre aussi une grande partie de son temps à des conférences Napoléon.
Exactement, ça occupe une grande partie de mon temps, à la fois comme conférencier, vous l'avez dit également, comme chargé de cours à la Sorbonne, et puis également à Paris-Est, Créteil, donc une université cette fois-ci spécialisée en droit, et donc je fais l'histoire des États européens à cette occasion, et plus largement, j'interviens non seulement dans les conférences, mais aussi dans des animations auprès des universités du temps libre ou des universités populaires, ce qui permet également d'intervenir pour différents thèmes, où Napoléon, bien sûr, parfois, et même assez régulièrement, est au centre de la question, mais ça peut m'arriver également, et peut m'arriver d'intervenir sur l'histoire de Paris, sur l'histoire du cinéma,
sujets. Vous n'êtes pas limité
exactement.
À Napoléon. En
exactement.
Tout cas, ce qui vaut votre venue à Narbonne, donc, pour ce jeudi 6 mars, 18h, donc, au Synode, c'est le thème Napoléon et Venise. Alors, Venise à l'époque, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que c'était à l'époque de Napoléon, de Bonaparte, on est encore historiquement, c'est Napoléon ou c'est Bonaparte à ce moment-là?
C'est encore Bonaparte.
C'est encore Bonaparte.
Ouais. On est dans la même suite finalement que ce qu'on appelle la première campagne d'Italie qui a débuté en 1796. On a en tête un certain nombre de batailles comme Arcole ou Rivoli. Et donc c'est dans cette optique-là que Bonaparte poursuit son avancée qui est finalement difficile pour les Sardes, puisque c'est le Piémont-Sardaigne, mais également pour les Autrichiens de stopper. Et Bonaparte, donc, lorgne sur cette République de Venise, qui n'est pas la Venise d'aujourd'hui uniquement, mais qui est beaucoup plus vaste et qui intègre dans son territoire non seulement les provinces alentours, parce qu'il y a la terre ferme qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a Bergame, Brescia, Crémone, Vicence,
Rovigo, Vérone. C'était quand même un territoire indépendant à l'époque.
Indépendant.
Alors dans une Italie morcelée à l'époque.
Et exactement. Donc par exemple avec le Frioul qui fait partie aussi de ces États, Venise a une puissance morcelée, vous l'avez dit, par rapport à l'Italie, a une puissance quand même très forte vis-à-vis de cette Italie qui est encore séparée, qui ne sera unifiée qu'au milieu du 19e siècle. Et en particulier avec comme nouvelle capitale Rome, mais avant cela, Venise est une puissance importante et en particulier une puissance extérieure, puissance commerciale et maritime, avec des territoires qu'on connaît encore aujourd'hui et que tout le monde connaît, l'Istrie, la Dalmatie, une part de l'Albanie et puis surtout parce que ça intéresse beaucoup Bonaparte, les îles Ioniennes, qui est donc un pied maintenant posé quasiment sur la Grèce à laquelle il rêve souvent. En tant qu'héritier,
oui.
Ou du moins un successeur, comme il le dit lui-même, d'Alexandre le Grand, avec Corfou et puis Cythère.
Oui,
donc voilà,
c'est
à la fois une puissance territoriale italienne du nord de l'Italie actuelle, et puis aussi une puissance maritime très forte avec des territoires qui vont jusqu'à la Grèce.
Alors pour donner une idée à l'auditeur de ce que sera cette conférence, donc un petit aperçu. Napoléon donc jette son dévolu, si je puis dire, et qu'est-ce qu'il en fait à l'époque?
Alors, ce qu'il en fait dans un premier temps, c'est d'en faire une acquisition importante parce que Venise, au-delà de sa puissance, qui est quand même considérable, la puissance financière et économique, Venise c'est aussi symboliquement un lieu que tout le monde en Europe et même au-delà connaît. Donc, pour la France du directoire de l'époque, pouvoir acquérir Venise, ça signifie non seulement affirmer sa puissance militaire et donc son influence républicaine, mais cette fois-ci une république à la française, et puis aussi, c'est aussi être à proximité de l'Autriche, qui reste la grande puissance militaire avec la Prusse de l'époque. Donc la France reprend finalement le pied sur des territoires qu'elle lorgnait depuis un moment, et avec Venise, elle va au-delà même de cette politique des frontières qui était la sienne depuis Louis XIV.
Alors, Venise, à l'époque, était déjà ce qui s'appelait une république, la République des Doges.
Exact, c'est exact. Mais la seule chose, c'est que ça n'est pas exactement la même conception de l'esprit républicain tel qu'on le conçoit en France, qui est doublée, finalement, d'une représentation démocratique. Là, cette Venise-là est une république, mais qui est dominée à la fois par un conseil qui s'appelle la Quarantia, 40 membres qui représentent la justice, et un autre, le Conseil des 10, Consiglio dei Dieci, qui sont chapeautés, si l'on peut dire, par un doge qui est élu, et celui qui est élu à l'époque de Bonaparte s'appelle Lodovico Manine.
Et alors, comment est-ce que Bonaparte s'y prend pour mettre le grappin, si vous me permettez l'expression, sur Venise?
Alors, il le fait avec une conception assez efficace, si l'on peut dire, sans jugement de valeur. Hein. Ça va avoir montré son efficacité rapidement. C'est-à-dire qu'on provoque le soulèvement de patriotes qu'on maintient et qu'on soutient financièrement, donc des patriotes vénitiens.
Qu'on manipule
Qu'on manipule, mais qui n'attendent qu'une chose. Ils ont vu ce qui s'était passé dans différents lieux d'Europe, à commencer déjà par la France, mais ils se disent que les différentes installations de républiques sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont sœurs de la République française, se sont déjà faites dans les Pays-Bas, se sont faites en Suisse, se sont faites également dans d'autres territoires italiens d'aujourd'hui. Donc, Venise pourrait être une prochaine étape. Et cette étape, elle commence, je vous le disais, par le soulèvement de ces patriotes italiens qui sont financièrement aidés par les Français et qui appellent de leur vœu un soutien militaire. Et comme par enchantement, évidemment, Bonaparte arrive avec ses troupes pour soutenir et contenir finalement la contre-attaque qui pourrait être faite par les troupes du doge lui-même.
Voilà, donc voilà ce que vous avez développé, David Chanterane, dans votre conférence. Pour terminer cette interview, qui, je le rappelle, n'est qu'un avant-goût, en quelque sorte, comment ça se passe? Est-ce qu'il met quelqu'un de sa famille, comme il a fait souvent, à la tête de Venise?
Alors, pas du tout. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans un premier temps, alors qu'il imaginait pouvoir peut-être conserver cette autorité sur Venise, finalement Venise va être une monnaie d'échange et puis elle va être échangée, comme je le disais, avec d'autres territoires, avec l'Autriche. Et ensuite, évidemment, Bonaparte reviendra sur la question lorsqu'il sera devenu président de la République italienne, donc uniquement sur le nord de l'Italie, puis roi d'Italie. Il installera son beau-fils, le fils donc de Joséphine, Eugène de Beauharnais, comme vice-roi, et le vice-roi prendra comme ses quartiers, où ça? Eh bien forcément à Venise. Donc, dans son esprit, les choses sont assez claires, ça n'est que reculer pour mieux sauter, et Venise va tomber dans l'escarcelle, cette fois-ci vraiment, des Français, et Napoléon aura droit d'ailleurs, lors d'une visite officielle à Venise, il aura droit à des festivités en son honneur, ce qui montre bien que les Français, à l'époque, pouvaient être accueillis en libérateur. Mais ce qui ne va pas être le cas plus tard, puisque des mouvements vont commencer à apparaître, et avec la chute de l'Empire, eh bien, c'en est fini. Venise va revenir cette fois à l'Autriche à proprement parler, et vous le savez, si vous avez vu pour certains le film Sissi, on sait que Venise et l'Autriche, c'est une longue histoire qui ne s'arrêtera qu'au moment de la libération complète et l'unité italienne, je vous le disais, en 1860.
Voilà. En tout cas, merci David Chanterane. Je rappelle que c'est vous qui allez animer, qui allez donner cette conférence ce jeudi 6 mars à 18h dans la salle des synodes de l'Hôtel de Ville de Narbonne pour le Cercle Napoléon de Montpellier. Merci à vous.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.